France Info.
Bonsoir à tous. Il y a des soirs où on ne fait pas ce qu'on veut, parce que c'est vrai que on aurait aimé vous interroger sur le bien fondé de ces marchés de Noël qui fleurissent un peu partout en France. On aurait pu faire un formidable débat autour du Téléthon en se demandant si c'est bien normal que la recherche française soit financée par la générosité citoyenne. On aurait même pu faire un dégagement sur ces footballeurs vedettes d'Arsenal. Vous avez vu ça en Angleterre, qui se sont filmés en train d'inhaler du gaz hilarant, mais là, il n'y a rien de drôle. Et on est bien obligé de reparler ce soir encore de ces gilets jaunes, de cette pression qui monte avant demain. On va évoquer la stratégie du gouvernement, la stratégie de ces gilets jaunes, de ces soutiens politiques, de l'entrée des lycéens dans la danse. Et puis, on va s'intéresser à l'image que donne la France à l'étranger, d'autant que nous sommes partenaires d'un excellent numéro de Courrier International sur la révolte des gilets jaunes vue par la presse étrangère. Ce qui explique d'ailleurs votre présence sur ce plateau. Et on s'en réjouit, Éric Scholl. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la rédaction de Courrier International. Bonsoir, Jeannick Halimi.
Bonsoir, Olivier.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Avec nous également, Étienne Girard. Bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Journaliste politique à Marianne. Et puis, Jade Zab. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, président du Parlement des étudiants. Qu'est-ce que c'est que ça, le Parlement des étudiants ?
Alors, le Parlement des étudiants, c'est une association qui est présente dans plus de 15 villes en France, dont l'objet est d'ouvrir le débat, de permettre aux jeunes de s'exprimer, d'aller vers les institutions et de comprendre leur fonctionnement.
Eh bien, ça tombe bien, le débat, on adore ça. C'est parti pour les informer.
Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Et ils sont nombreux.
C'était ce matin Christophe Castaner lors d'une conférence de presse. Ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs. Autrement dit, c'est presque la bête immonde qui est de nouveau de retour. Est-ce que le gouvernement n'en fait pas un peu trop dans la dramatisation de la situation, Jeannick Halimi ?
Écoutez, l'avenir nous le dira. Hein. J'ai envie de dire, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. C'est pas la première fois que Christophe Castaner tient des discours comme ça un peu anxiogène, ou le gouvernement sur la peste noire, sur...
mais également, on se souvient de Gérald Darmanin qui parlait de la peste brune.
De la peste brune, voilà, c'était Gérald Darmanin. Écoutez, puisque vous citez la bête immonde d'Arthur Howe et de Bertolt Brecht, il y a aussi une phrase dans cette mémoire, dans cette pièce de théâtre où il disait à ses lecteurs, ouvrez les yeux et apprenez à regarder. Donc c'est vrai que si Christophe Castaner pousse l'ensemble des citoyens que nous sommes, ainsi que les responsables politiques ou les responsables du gouvernement à essayer d'analyser un peu mieux ce mouvement et de peut-être faire la part entre le bon grain de l'ivraie, ce que chacun essaie de faire entre les gilets jaunes dont les doléances sont tout à fait audibles et dont les méthodes de contestation sont tout à fait démocratiques, et puis d'autres qui non seulement se livrent à de la violence et surtout, ce qui est peut-être encore plus grave, légitiment cette violence au nom d'une injustice ou d'un système non démocrate. Bah écoutez, il y a certains leaders qui tiennent aussi peut-être dans la coulisse ou qui ont des parcours avec des discours xénophobes, révisionnistes, antisémites, qui ne les tiennent pas officiellement dans le moment que nous vivons. Donc il faut savoir dessiller les yeux. Et puis on peut penser aussi à certains mouvements politiques qui peuvent, en tout cas certains de ses membres, légitimer cette violence. Bon, je pense par exemple à la France insoumise.
Pour vous, Christophe Castaner n'en fait pas trop. Étienne Girard, c'est votre avis également ?
En tout cas, il en fait beaucoup. J'ai envie de vous dire, j'espère qu'il en fait trop. Et on le saura demain. Ce serait plutôt une bonne nouvelle qu'il en fasse trop. Mais c'est vrai que le gouvernement est dans une stratégie de la traumatisation, de la tension. On entend des expressions assez hallucinantes dans la bouche de conseillers du président de la République. Il parle de putschistes, il parle de gens qui viennent pour tuer. La scène qui est dépeinte est celle d'une quasi-insurrection, d'une quasi-révolution. J'espère que le gouvernement exagère et que demain, finalement, on sera étonné de voir qu'il y a moins de casse que ce qu'on avait prévu. Mais je n'en sais rien, à vrai dire. Je ne peux pas vous dire s'il y en aura ou pas. Alors, ça, il y a une vraie stratégie derrière, c'est que le gouvernement, maintenant, vise l'opinion. Le but du gouvernement, c'est de convaincre l'ensemble des Français qui sont longtemps restés hésitants, voire un peu bienveillants vis-à-vis de ce mouvement des Gilets jaunes, qui a des côtés en effet plutôt sympathiques, mais de lui montrer, le but c'est de montrer à l'opinion que le mouvement des Gilets jaunes c'est plus ça. C'est plus le côté plutôt sympathique du début, de la base qui réclame simplement être entendue. C'est qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est des radicaux. C'est des gens qui sont pas pour l'état de droit et que c'est pas des démocrates. Donc la stratégie, c'est que dans les sondages, au fur et à mesure, on voit que le soutien vis-à-vis des Gilets jaunes, il baisse.
Et d'ailleurs, il baisse, mais enfin, il reste quand même très élevé.
Il reste très élevé. Et ben, le but du gouvernement, c'est de le faire passer peu à peu sous les 50% pour le rendre définitivement illégitime aux yeux des Français.
Jade Zahav.
Je crois que là-dessus, au moins, on ne pourra pas reprocher au ministre de l'Intérieur de ne pas avoir anticipé. La semaine dernière, on avait dit, après les événements, que le gouvernement n'était pas prêt.
On va lui dire qu'il en a fait beaucoup.
Voilà. À la limite, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là ce soir et que demain, on se rende compte que le dispositif était trop important, plutôt que l'inverse avec des dérapages. Et ce qui me semble intéressant de noter, c'est que dans le mouvement, vous disiez qu'ils veulent essayer de délégitimer les Gilets jaunes. Je crois qu'ils essayent, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que ceux qui seront à Paris demain ne sont pas les Gilets jaunes. Ceux qui viennent, c'est le message que nous font passer les ministres, ceux qui sont à Paris demain, ceux qui viennent à Paris pour aller casser ce que M. Castaner appelle les factieux, ceux-là ne sont pas les Gilets jaunes, et donc il dit aux Gilets jaunes, ne laissez pas ces factieux vous prendre en otage entre guillemets et détourner votre propre message, et il leur dit, voilà, distanciez-vous de ces gens-là et montrez que vous n'êtes pas ces personnes-là qui appellent au putsch, à la violence et aux scènes de guérilla auxquelles on a pu assister.
Bonne stratégie, c'est une bonne stratégie à votre avis?
Je ne le sais pas, on le verra demain. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de gilets jaunes, ces gilets jaunes libres en tout cas, ont eux appelé à ne pas manifester et donc ils vont un peu dans le sens du gouvernement.
Alors, on le verra demain et puis on va le voir avant ça dans deux petites minutes, mais parce qu'il est 20h10, vous le savez, sur France Info, 20h10, c'est l'heure de l'info. Thomas Benesch vient de nous rejoindre. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. C'est une information France Info. La société Altifort a bouclé son plan de financement pour reprendre la scierie nordiste Ascoval. L'État y participera à hauteur de 25 millions d'euros. Le tribunal doit se pencher sur ce dossier, décider de la viabilité de cette offre mercredi prochain. La scierie de Saint-Saulve dans le Nord emploie 281 salariés. À la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes en France, Marine Le Pen exprime dans une lettre ouverte son attachement à la 5e République. Les imprécations en faveur de son renversement sont inutiles, ambiguës et dangereuses, juge la présidente du Rassemblement National. Elle dit croire à une sortie de crise essentiellement politique. La responsable appelle au calme alors que le ministère de l'Intérieur craint des violences. 89 000 forces de l'ordre sont déployées sur tout le territoire, dont 8 000 rien qu'à Paris. Dans la capitale, 7 gilets jaunes libres vont être reçus d'ici une vingtaine de minutes maintenant à Matignon. Une invitation qu'ils avaient dans un premier temps déclinée, souhaitant une entrevue à l'Élysée. Ce matin, Benjamin Cauchy, l'un de ces gilets jaunes libres, la frange modérée du mouvement, a lancé devant l'Assemblée nationale un appel au calme et à ne pas venir manifester demain à Paris. Après avoir défendu ces derniers mois la thèse du complot familial dans la mort de son épouse, Jonathan Daval a une nouvelle fois avoué aujourd'hui avoir tué son ex-femme Alexia en octobre 2017. Le suspect a craqué au bout d'une heure et quart d'audition, relate le procureur de Besançon. Il était confronté à sa belle famille.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Veillée d'armes ce soir, et pardon d'utiliser peut-être cette phraséologie un peu trop martiale, mais en ce vendredi soir, c'est vraiment le sentiment qui semble habiter à la fois beaucoup de Français et le gouvernement qui a même fabriqué et fait diffuser sur les réseaux sociaux un petit clic. Alors, ceux qui nous suivent sur le canal 27 vont pouvoir le voir. Pour vous qui nous écoutez à la radio, bah, je vais vous le raconter. Alors, on voit d'abord des défilés tout à fait pacifique, avec les messages suivants. Manifester est un droit. L'expression des revendications est fondamentale en démocratie. Certaines ont construit la France d'aujourd'hui. Mais manifester n'est pas casser. Et là, le clip montre des images de casseurs. Ce n'est pas casser notre patrimoine. Ce n'est pas casser nos commerces. Ce n'est pas casser nos biens. Manifester, ce n'est pas casser notre République. Manifester est un droit. Alors, sachons l'exercer. Respecter les règles du droit de manifester. Ça, c'est ce clip, petit clip, film réalisé pour les réseaux sociaux. Ils peuvent avoir leur utilité, à votre avis, Eric Scholl?
Sans doute, en tout cas, c'est pédagogique.
Il n'y a pas cette notion de monstre. Moi, je suis désolé, mais lorsque j'entends parler de monstre, je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'on est allé dans la surenchère et on n'a pas besoin, à la veille d'une journée qu'on sait tous un peu qui peut être dangereuse, on n'a pas besoin de faire des surenchères dans les mots. Il faut savoir plutôt dire, mais manifester, c'est pas cassé, c'est parfait, etc. Je pense que c'est il y a eu au cours des 3-4 derniers jours une stratégie de surenchère dans la peur autour de cette journée, ce qui est pas totalement aberrant, parce que effectivement, il y a une mise en garde à faire, mais justement, ne pas rentrer dans, ne pas utiliser des termes qui sont, à mon avis, totalement inappropriés. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de monstre, ça veut dire qu'on confond tout le monde. On confond les casseurs, on confond les gentils gilets jaunes et puis les autres.
C'est ce que disait Jadza, ben, c'est intelligent, en disant, finalement, le gouvernement essaye de délégitimer les gilets jaunes pour qu'ils ne viennent pas manifester demain.
Hein. Ben, ils n'ont pas envie qu'il y ait non plus... Il y a aussi cette idée de réduire au maximum le public qui se rendra, enfin, tout ça, tous ceux qui souhaiteraient, qui peuvent venir de n'importe où de France ou de banlieue, qui voulaient venir à Paris, c'est l'idée de leur faire un petit peu peur et de ne pas participer aux violences. En tout cas, d'être présent aux violences, ne serait-ce qu'aussi que pour les... On sait à quel point les forces de l'ordre vont être présentes dans la capitale demain pour...
Presque 90 000 personnes en France, militaires et policiers qui sont mobilisés demain, 8 000 à Paris, c'est vrai que c'est tout à fait énorme. Yannick Halimi.
Si on veut bien oublier un moment le terme monstre, qui effectivement est compliqué à définir, mais je pense qu'il avait plutôt, ce terme-là, une vision politique à long terme, en tout cas dans l'esprit du gouvernement tel qu'il est, parce que je pense que pour le gouvernement actuel, ce mouvement pourrait déboucher sur un mouvement populiste qui, comme on le sait, est l'ennemi à abattre pour Emmanuel Macron depuis qu'il est candidat à la présidentielle, et en l'occurrence plutôt un monstre d'extrême droite, ou en tout cas un populisme de droite extrême. Donc je pense que si monstre il y a, c'est peut-être ce à quoi pensait Christophe Castaner, ou en tout cas le gouvernement, et pas pour demain ou dans les jours qui viennent, mais peut-être dans les mois ou les années qui viennent, parlons clair.
Et vous avez entendu Marine Le Pen
à 2022. Mais justement, Marine Le Pen...
Qui dit qu'elle est très... Voilà,
bien sûr, mais Marine Le Pen est tout à fait, pour le coup, campe bien son rôle, parce qu'elle ne met pas du tout de l'huile sur le feu. Elle apparaît comme, plus qu'une force d'opposition, comme une force d'alternative politique, ce qui lui manquait jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à la présidentielle récente, où elle est tout de même arrivée au second tour. Donc je pense qu'elle joue tout à fait bien sa carte avec un mouvement, encore une fois, qu'elle a été avec Dupont-Aignan une des premières à capter, et puis qui, fondamentalement, on en parlera peut-être, sociologiquement, même s'il s'enrichit au fil, s'est enrichi ce mouvement au fil des semaines de mouvements plus populaires et plus de gauche ou de gauche extrême, reste fondamentalement, en tout cas, sur un socle de petits commerçants, de moyennes bourgeoisies.
D'électeurs, sans doute, de Marine Le Pen.
D'électeurs. Et juste, pardonnez-moi, je termine là-dessus, sur vouloir de la part du gouvernement délégitimer le mouvement des Gilets jaunes. Je ne le pense pas, c'était peut-être son idée au début, mais au fil des manifestations, des mobilisations et des déclarations du gouvernement ou des membres du gouvernement, ils ne veulent plus délégitimer l'ensemble du mouvement, puisqu'ils tendent la main, ils ouvrent la porte
et c'est
de Matignon
et
de certains ministères, pas de l'Élysée pour le moment.
Minutes,
ils re-reçoivent, voilà. Et
on va laisser passer, on va laisser parler Jadza un petit peu.
Bah, si vous voulez, bien sûr.
Yannick Halimi.
Mais je vous en prie.
Merci. Oui, par rapport à ce que vous disiez, moi j'aimerais nuancer malgré tout le fait que Marine Le Pen essaye de capter un mouvement. Je ne crois pas qu'elle l'ait réussi. Et ce qui est assez original dans ce mouvement, c'est que justement, aucune des oppositions n'arrive à le capter. Et on voit bien que les Gilets jaunes, quand il y a des députés, fût-il de la France Insoumise, du mouvement de Marine Le Pen ou de même l'opposition de Laurent Wauquiez, ces députés-là se font huer parce que justement les Gilets jaunes revendiquent leur indépendance. Donc je crois qu'elle essaye et qu'elle ne réussit pas. Et sur ce que vous disiez, j'ai absolument pas dit que le gouvernement essayait de délégitimer les Gilets jaunes, mais je crois que l'emploi du terme monstre, c'est aussi un monstre vis-à-vis des Gilets jaunes eux-mêmes. C'est-à-dire que vous disiez, on le voyait dans la vidéo, manifester, ça n'est pas cassé. Les gens qui viennent à Paris sur les Champs-Élysées, ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était des gens qui venaient pour casser, pas des gens qui étaient là pour manifester. Donc, le ministre de l'Intérieur, il est dans ce rôle quand il dit c'est un monstre qui veut aussi vous détruire, vous, gilets jaunes modérés, qui avez des vraies revendications. Donc, je crois que c'est aussi pour les préserver eux-mêmes de cette violence.
On parle beaucoup de la violence. Question à la cantonade. Qui a intérêt à ce que ça se passe mal demain? Qui a intérêt à des violences?
Peut-être cyniquement, ceux qui veulent remplacer Emmanuel Macron à la tête de l'État, une partie de l'opposition. peut faire le calcul cynique.
Et tout le monde veut la place d'Emmanuel Macron. Ouais. Alors, ça veut dire qui tous les partis politiques souhaitent secrètement que ça se passe mal?
Non, mais je crois pas. Et d'ailleurs, ce serait un mauvais calcul de la part de tout le monde. Personne n'a gagné à ce que l'État soit déstabilisé. Emmanuel Macron, il est suffisamment affaibli pour attendre aux élections européennes qu'il fasse un mauvais score et qu'on puisse dire qu'il peut plus continuer son programme de réforme. Donc, cyniquement, tout le monde y a intérêt, mais avec un peu d'esprit républicain, personne n'y a intérêt. J'ose croire que personne ne souhaite que demain, que Paris soit ravagé et donc que le pouvoir central.
Si je puis me permettre, l'État, il a déjà été déstabilisé. Ce qui s'est passé le week-end dernier, ce qui s'est passé samedi la semaine dernière, a déstabilisé l'État. On le voit bien.
Regardez juste
la semaine Emmanuel Macron. On voit qu'on est rentré dans une période exceptionnelle. On n'est pas du tout dans un temps normal de la politique. On est déjà dans une crise politique grave, où on essaye en train de trouver des sursauts, on essaye de trouver des solutions. Il y en a qui ont été amenés cette semaine, qui ont été apportés cette semaine, mais on voit bien qu'elles ne suffisent pas, qu'il va falloir, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a décidé d'attendre un peu, il prépare sa réponse, il va voir ce qui se passe ce week-end. Mais on est dans un temps extraordinaire et il y a une déstabilisation, ça me paraît absolument évident. On verra si demain renforce la déstabilisation. C'est pas du tout certain parce que pour le coup, ça a été préparé, anticipé par les forces de l'ordre, par le gouvernement, par les autorités.
Justement, Éric Choc, et poussons le cynisme jusqu'au bout. Est-ce que l'exécutif n'a pas intérêt à ce qu'il y ait de vraies violences et avec une police extrêmement ferme qui reprenne véritablement les choses en main pour montrer que, après les débordements de la semaine dernière, en fait, l'exécutif a repris les choses en main.
C'est une hypothèse machiavélique qui a été poussée, suggérée à l'envi ces dernières semaines et ces derniers samedis, là, au moment des mobilisations de la part de certaines forces de l'opposition, de la part de certains manifestants eux-mêmes. Ça a été dit, ça a été répété. Il pousse justement, entre guillemets, à la faute les manifestants et à la violence dans la montée de fièvre, disent ces gens-là, pour que le gouvernement fasse en sorte que l'opinion publique, se désolidarise des mouvements. Mais je pense que, et vous l'avez dit Éric Scholl, le gouvernement se rencontre jouer avec les allumettes et l'apprenti sorcier, parce que, in fine, ce qui n'est pas sûr du tout de gagner, il est même maintenant, aujourd'hui, sûr de perdre, parce que ce serait la compétence, l'efficacité et la légitimité même du pouvoir en place qui en prendrait pour son grade et qui serait fragilisé et totalement déstabilisé. Donc je ne pense pas que ce soit dans la stratégie du gouvernement et de l'exécutif.
20h20, vous regardez, vous écoutez les informés, vous avez bien raison. Thomas Benesch vient de nous rejoindre pour l'info.
L'ordonnance attendue par les agriculteurs et fixant, entre autres, le relèvement du seuil de revente à perte de leurs produits sera examinée mercredi prochain. En Conseil des ministres, annonce ce soir le ministère de l'Agriculture. Cette présentation a été repoussée cette semaine en raison de la crise des gilets jaunes. Le syndicat agricole FNSEA avait du coup annoncé des manifestations dans toute la France à partir de lundi. C'est dès demain que les gilets jaunes appellent à de nouvelles mobilisations partout en France, y compris à Paris. Dans la capitale, par mesure de sécurité, écoles, collèges, lycées seront fermés. Idem pour les grands magasins, des galeries Lafayette, Haussmann et Montparnasse au BHV, en passant par les enseignes du printemps. Une dizaine de stations de métro seront par ailleurs bouclées dès 5h30 du matin. Charles de Gaulle Étoile, Opéra ou bien encore Bastille. 17 jeunes, dont un majeur, ont été déférés aujourd'hui devant le parquet de Versailles. Ils sont mis en cause dans les incidents d'hier dans les Yvelines. Un département où 151 jeunes ont été interpellés hier après des heurts à proximité d'un lycée de Mantes-la-Jolie. Les élèves arrêtés ont été parqués, maintenus assis ou agenouillés, mains sur la tête. Ces images ont choqué. Le défenseur des droits annonce l'ouverture d'une enquête. Le 32e Téléthon s'est ouvert ce soir et pour tout le week-end. Le parrain de cette édition 2018 s'appelle Pascal Obispo. Pour aider à vaincre les maladies rares, vous pouvez faire vos promesses de dons au 36-37.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et le jaune est mis ce soir encore sur le plateau des informés. J'aimerais peut-être qu'on prenne un peu de recul par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Et je me tourne vers vous, Éric Scholl. Vous publiez un numéro exceptionnel de Courrier International, en partenariat d'ailleurs avec France Info, sur la façon dont le mouvement des Gilets jaunes est perçu à l'étranger. C'est grave pour l'image de la France ?
Ah oui, très grave. Très franchement, très, très grave. C'est-à-dire qu'il y a eu, bon voilà, finalement la presse étrangère, c'est un peu comme le gouvernement. Ils ont mis du temps à réagir. Et puis ce qui s'est passé le week-end dernier, tout d'un coup, ils ont compris que la France était rentrée effectivement dans cette période, ce que j'appelais extraordinaire, exceptionnelle, qu'il se passait quelque chose d'important. Et cette presse étrangère, elle a suivi de très très près l'élection d'Emmanuel Macron. Elle l'a suivi pendant ses premiers mois, cette volonté de réformer, etc. Et donc aujourd'hui, elle est intriguée, très inquiète par rapport à ce qui va se passer là. Elle a aussi en tête ce qui s'est passé ailleurs en Europe. Donc elle a analysé les mouvements, différents mouvements populistes, le Brexit en Grande-Bretagne, Trump aux États-Unis, les montées d'extrême droite. Regardez l'Italie, tout ça. Elle regarde ça avec son propre regard en fonction des situations nationales. Elle se dit, est-ce que la France, où Emmanuel Macron avait promis finalement de mettre fin au populisme, puisque c'était ça, cette promesse au moment de son élection en 2017, est-ce que là on n'est pas à un tournant, est-ce que c'était pas la fin, est-ce que on n'est pas en train d'assister à une montée du populisme où on retrouve des éléments qu'on a pu, alors différents, parce que il y a
Il y avait des magazines, des journaux européens qui étaient très macronistes. On s'en souvient, il y a 6 mois encore, on avait eu des unes très élogieuses.
On a deux journées, c'est très intéressant à regarder. Vous avez vu l'Économiste, qui il y a quelques mois disait à propos d'Emmanuel Macron, c'est le sauveur de l'Europe. Là, ils viennent de faire une cette semaine qui ça s'appelle le cauchemar de Macron. Et on voit sur cette une, si vous voulez, ce socle de cette statue cassée dans l'Arc de Triomphe. La même chose dans la presse allemande.
Cette photo, elle fait florès.
La même chose dans la presse allemande. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, grand journal, dans son édition du dimanche, qui est sortie aujourd'hui, on voit un grand titre, Emmanuel Macron, la photo Emmanuel Macron, avec une grande tache jaune, donc c'est et avec ce titre, le soulèvement. Et l'inquiétude, alors là, c'est une inquiétude européenne, dans la presse allemande, c'est de dire, voilà, Emmanuel Macron devait refaire l'Europe. Il y a quelques mois, le même journal avait parlé de ça, le nouveau maître de l'Europe, Emmanuel Macron. Ben voilà, toutes ces interrogations, est-ce qu'il pourra poursuivre? Et d'ailleurs, la réponse, c'est plutôt non, ça va être très compliqué, il ne pourra plus faire tout ce qu'il voulait faire sur l'Europe. On est peut-être à un tournant, à la fois en France, mais aussi de façon sur l'Europe, comment reconstruire aujourd'hui l'Europe.
Étienne Girard, ce que dit Eric Scholz, ça vous étonne? C'est grave pour Emmanuel Macron ou c'est grave pour la France?
Les deux. Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est la France. Oui, il y a une sidération, bien sûr, dans la presse étrangère, mais aussi en France. Qui aurait pu croire, il y a 6 mois, qu'on en arriverait là? Alors certes, Emmanuel Macron, il n'était pas populaire, mais il y a d'autres présidents qui n'étaient pas populaires avant lui, qui étaient même moins populaires.
Il était populaire,
jusqu'à
l'affaire Benalla.
Il avait une popularité
jusqu'à
correcte.
La Coupe du Monde de football.
Voilà, jusqu'à 3 jours après la Coupe du Monde de football. D'accord, mais qui aurait pu croire qu'on en arrive à ce déchaînement de haine vis-à-vis de lui? Parce que c'est ça le sujet. C'est ça qu'on entend dans les manifestations, sur les barrages, partout en France. C'est une haine, un ressentiment personnel dirigé à l'égard du président de la République. Et là-dessus, les petites phrases ont fait énormément de mal. Moi, ce qui m'a frappé, j'étais sur les Champs-Élysées la semaine dernière, les tags, vous savez, les tags, eh bien, ils font presque tous référence à une phrase d'Emmanuel Macron. On traverse la rue, signer les Gaulois réfractaires, ouais. Etc. Voilà, donc Emmanuel Macron, c'était le petit génie encensé par la presse internationale. C'est en ça que c'est intéressant, ce profil. C'était le nouveau Kennedy. Il s'est senti très fort, peut-être un poil arrogant, trop fort. Et là, il n'est plus du tout fort.
Jeanne Calimi.
Oui, non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et par Eric et par vous-même. Non,
vous êtes d'accord avec tout le monde ce soir, c'est formidable.
Ah ouais, mais c'est bien. Hein. Bon. Bref, donc non, mais il y a cet aspect effectivement détestation d'Emmanuel Macron qui polarise et qui cautérise, enfin qui polarise, pardon, qui enquiste énormément de haine et de raisons de ce déferlement de colère. Je suis d'accord avec vous pour toutes les raisons que vous venez d'indiquer. Parce qu'il a été arrogant et parce que la chute est d'autant plus dure que Emmanuel Macron avait été élevé assez haut dans l'opinion publique française et également à l'étranger. Et à l'étranger, il y a effectivement 3 raisons un peu rationnelles pour lesquelles sa statue a été décelée, si je puis dire. C'est que, souvenez-vous, c'était le grand leader mondial de l'écologie, Make Our Planet Great Again. On recule sur quoi ?
Ça l'a fait beaucoup rire.
Sur la transition écologique, premier recul, c'était le grand leader européen avec d'abord Merkel, puis tout seul. Là, ça va être extrêmement compliqué, comme vous le disiez, Eric Scholl, pour différentes raisons budgétaires.
Et là, c'est Salvini qui...
Et c'est Salvini qui tient, beaucoup. Voilà.
Et la troisième raison,
c'était un peu le leader un peu moral, puisque c'était au nom du siècle des Lumières, par rapport à ce qu'il considérait encore une fois comme un monstre entre guillemets
voilà. et là c'est Voltaire qui rigole, et voilà pourquoi la statue roule, mais la statue roule. Les informés, on se retrouve dans quelques minutes, vous restez avec nous, on laisse passer la météo et l'info, à tout de suite.
Je veux vous présenter notre atout commercial à l'export, un VIE, ici en Afrique de l'Ouest, qui a contribué aux 20% de croissance de notre start-up.
Assalamu alaikum, mangete de Marc. Commercial memrek la bagay. Ça veut dire bonjour, je m'appelle Marc, et le développement commercial, c'est mon truc. C'est du Wolof. Je l'utilise pas mal par ici.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Vous vous développez à l'étranger ? Comptez sur Business France pour vous aider à trouver votre talent parmi plus de 40 000 candidats référencés. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
Élodie Calac.
La perturbation continue sa route vers l'est ce soir avec de la pluie. La neige s'abaisse vers 800 mètres sur les massifs de l'est. Beaucoup de vent aussi sur les Alpes, jusqu'à 100-120 km à l'heure. De très fortes rafales de vent aussi sur la Corse. Demain, ça restera agité. Au programme, de la pluie ou des averses. Un peu de neige entre 800 et 1000 mètres. On trouvera du soleil autour de la Méditerranée. Ça soufflera partout, jusqu'à 60 à 90 km à l'heure. Il fera un peu moins doux, 7 à 10 degrés dans l'est l'après-midi. 11 à 15 en allant vers l'océan. 13 à 18 près de la Méditerranée. Entre samedi soir et dimanche, le vent se renforcera encore jusqu'à 100 km à l'heure près de la Manche, 120 à 130 sur les Alpes, jusqu'à 130 à 150 km à l'heure sur les Caps Corses. Les averses seront marquées dans l'est et puis il neigera en bonne quantité sur le nord des Alpes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
. 20h30 sur France Info, toute l'info, Augustin arrivé. Bonsoir Augustin.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Difficile d'évaluer quelle sera l'ampleur de la mobilisation des Gilets jaunes demain et de ses dérapages. Une délégation de 7 membres du mouvement est reçue en ce moment à Matignon par Édouard Philippe. Ce samedi, Paris sera quadrillé par les forces de l'ordre, 8000 personnes déployées, 89 000 dans toute la France. Et Anne Chépeau, ce ne sera clairement pas le jour idéal pour visiter la capitale.
Inutile d'essayer d'aller dans un musée demain, ils seront tous fermés. Le Grand Palais, situé près des Champs-Élysées, pour le troisième samedi consécutif. Un samedi de fermeture, ce sont 10 000 visiteurs en moins pour cet établissement. Fermé également le Louvre, qui accueille habituellement le samedi 20 000 à 25 000 visiteurs. Le Jardin des Tuileries, le musée d'Orsay, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, la Fondation Vuitton, ainsi que les monuments emblématiques de la capitale, Tour Eiffel, Panthéon, Conciergerie, Sainte-Chapelle. Après les dégradations de samedi dernier à l'Arc de Triomphe, avec des dégâts estimés pour l'instant à 1 million d'euros, c'est le principe de précaution qui a prévalu. Les salles de spectacle sont elles aussi concernées par les fermetures. Près des Champs-Élysées, 3 théâtres resteront portes closes demain pour le troisième samedi consécutif. Le Rond-Point, Marigny, qui a rouvert il y a seulement 3 semaines après 5 ans de travaux, et le Théâtre de la Ville délocalisé à l'Espace Cardin. Fermé également l'Opéra de Paris, la Comédie Française et Radio France, où tous les concerts et ateliers sont annulés.
Anne Chépeau et d'autres fermetures d'établissements en province, notamment l'Opéra de Bordeaux. Plusieurs dizaines d'élèves agenouillés au milieu de la place de la République à Paris, main sur la nuque. La scène s'est produite aujourd'hui, les lycéens répétant à l'identique les images de Mantes-la-Jolie hier, cette vidéo qui a beaucoup circulé, de policiers forçant les adolescents à rester ainsi prostrés tout en se moquant d'eux. La mobilisation lycéenne porte à l'origine sur le rejet de Parcoursup et de la réforme du bac, mobilisation qui s'est étendue ce vendredi. 400 lycées concernés, souvent dans le calme, mais avec des interpellations ici et là et des débordements, comme depuis le début de la semaine. Un policier blessé ce matin à Mulhouse, percuté par une mini-moto. Il est sorti de l'hôpital dans l'après-midi. 200 personnalités ont signé aujourd'hui une tribune dans le journal Libération pour demander au gouvernement d'interdire l'usage de flashballs contre les manifestants. Parmi les signataires, les cinéastes Laurent Canté ou Pascal Ferrand, l'écrivaine Annie Ernaux, l'avocat Georges Kijman, plusieurs députés de la France Insoumise également. Ce retrait des lanceurs de balles de défense avait été préconisé par le défenseur des droits Jacques Toubon dans un rapport de janvier dernier. La scierie Ascoval dans le Nord a trouvé un repreneur, 281 emplois en jeu, on ne sait pas combien seront conservés. L'État est tombé d'accord avec le Belge Altifort pour collaborer dans un dossier de reprise. L'État participera à hauteur de 25 millions d'euros, soit un sixième du total. Le tribunal de commerce examinera ça le 12 décembre. 20h33 sur France Info, la suite des informés, c'est toujours avec vous jusqu'à 21h, Olivier Delagarde.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie d'Éric Scholl de Courrier International, de Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France, d'Étienne Girard de Marianne et de Jahad Zahab, essayiste et président du Parlement des étudiants. Alors en cette veille de quatrième acte de manifestation de Gilets jaunes, je voudrais qu'on évoque l'entrée des lycéens dans le mouvement. Selon un dernier décompte de l'Éducation nationale, 400 lycées étaient perturbés aujourd'hui, dont 84 bloqués. C'est à peu près une centaine de plus que qu'hier. Des lycéens qui ont manifesté et qui ont parfois commis des violences et des déprédations. Et à Mantes-la-Jolie, la réponse de la police a été pour le moins spectaculaire. Les images ont fait très rapidement le tour des réseaux sociaux. Images montrant l'arrestation de dizaines de personnes, genoux au sol, les mains sur la tête. Est-ce que ces images vous choquent, Jahad Zahab ?
Oui, je crois qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Oui, ces images sont très choquantes. Ces images, elles sont le reflet d'une violence. Elles traduisent une violence, violence qu'on vient de voir. Là, cette mise en scène de ce que sont des jeunes adolescents est inacceptable, mais aussi violence du climat dans lequel la France est installée depuis 3 semaines, sans pour autant faire de lien entre les gilets jaunes et les mouvements des lycéens. C'est beaucoup des personnes qui ont été interpellées hier avaient commis, vous l'avez dit, des violences depuis 3 jours. Ils se rassemblaient, cagoulés, appelant à des violences, à détruire le matériel et à s'attaquer aux forces de l'ordre. Donc ces images sont choquantes, mais elles sont le reflet d'une violence symbolique qui s'est installée
dans les établissements. Mais pour vous, elles sont violentes,
ces images sont choquantes, oui, parce que ce sont des adolescents.
Choquantes ou violentes ?
Elles sont choquantes, elles traduisent une violence. Violence sociale, mais violence aussi que les policiers ont été, ils ont été la cible. Donc il faut pas être, je pense pas qu'on puisse être manichéen sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Il y a une violence sociale, c'est sûr, elle est là. Les lycéens s'en saisissent, ils ont le droit d'exprimer leurs idées. Ce que nous disait le Premier ministre ce matin, le ministre de l'Intérieur, pardon, dans sa conférence de presse, c'est que, a priori, beaucoup des gens qui ont été interpellés n'étaient pas des lycéens, c'était des gens qui s'étaient, j'allais dire, coalisés autour des lycées pour commettre des violences. Donc, les images sont choquantes, mais il y a aussi une violence dont les forces de l'ordre sont la cible, et j'allais dire, c'est un peu, hélas, c'est le révélateur du climat de violence sociale dans lequel on est, qui, à titre personnel, me fait très peur.
Étienne Girard, pour vous, vous êtes choqué?
Même pas choqué, je suis horrifié par ces images.
Horrifié.
Ouais, absolument. Il y a deux choses. Il y a le fait d'interpeller comme ça des adolescents. Vous savez, dans le maintien de l'ordre, il y a une théorie, c'est celle de la proportionnalité. On doit faire simplement ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre. Là, en l'occurrence, est-ce que c'était nécessaire? Il y a des policiers sur le terrain qui disent oui, on était 12 policiers, il y avait 150 manifestants, on était obligés de les interpeller de cette façon-là, de leur maintenir, on n'avait pas assez de menottes, on devait leur maintenir.
C'est effectivement ce qu'ils ont dit. Mais ça, c'est pas audible.
Alors ça, je sais pas si c'est audible, l'enquête le dira, j'ai des doutes, mais l'enquête le dira. Mais ce qui est absolument indéfendable, inqualifiable, injustifiable et anti-républicain, c'est ce policier qui va filmer la scène, qui a ce commentaire, voilà une classe bien sage, et qui ensuite va diffuser de telles images sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte, les policiers sont là pour représenter l'ordre, l'état de droit, face à des gens qui sont suspects d'avoir commis des délits. Où est l'esprit républicain de ce policier goguenard qui se moque d'adolescents qui sont entravés, à genoux, agenouillés devant des policiers? C'est lamentable et je suis assez choqué qu'il n'y ait eu aucun politique, notamment de la part du gouvernement, qui se soit exprimé sur cet aspect précis et sur le fait que un policier n'est en aucun cas habilité à
filmer. Je ne sais pas s'il y a une certitude de l'auteur des images.
Alors sur la diffusion,
c'est peut-être ça.
Absolument. Mais alors sur la diffusion, les personnes qui ont trouvé cette vidéo sur les réseaux sociaux attestent que ça a été diffusé dans un premier temps par un fonctionnaire de police.
Éric Scholl, vous êtes choqué?
Oui, je suis choqué. C'est pas des images. On n'a pas du tout envie de voir ces images. Et en ce sens-là, je suis choqué. Je vois aussi en même temps qu'il n'y a pas eu de blessés, qu'il n'y a pas eu de que les opérations de maintien de l'ordre, on les connaît mal. Si j'ai entendu le préfet, elles se sont plutôt bien déroulées. On n'aurait pas du tout envie de voir ces images. Par contre, ces images, elles nous disent quand même quelque chose sur ce mouvement qui est en cours. Elles nous disent que Emmanuel Macron est en train de traverser une sorte de révolte, de révolution, je sais pas comment appeler ça, 2.0. Et si vous voulez, ça a commencé avec Facebook, puisque le mouvement des Gilets jaunes, il a commencé sur Facebook.
Ah ben ça, c'est le premier mouvement social de réseau social.
Et on voit aujourd'hui que le relais et l'importance, l'impact qu'a cette vidéo, c'est grâce évidemment aux réseaux sociaux. Moi, j'ai vu cette vidéo très très tôt ce matin, et quand j'ai vu ces images, je me suis dit, mais c'est pas possible.
Mais c'est quoi le problème ? Ce sont les faits ou ce sont les images ?
Si vous voulez... C'est surtout qu'on nous montre des images dont on n'a pas l'habitude. On voit des images qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, je n'ai pas vu jusqu'à présent des images de maintien de l'ordre. Si c'est ça le maintien de l'ordre, effectivement, elles nous rappellent des images qu'on n'a vraiment pas du tout envie de voir. Néanmoins, encore une fois, il y a les résultats et l'efficacité. L'efficacité, c'est que je ne crois pas qu'on ait eu de blessés à Mantes-la-Jolie, sans un lycée d'ailleurs que je connais. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu 150 interpellations. Moi, je ne sais pas comment on fait pour interpeller 150 adolescents, je me garderai bien de vous répondre là-dessus.
Alors, très bonne question, très bonne réponse, et là on se tourne vers Jeannette Calimi. Vous êtes choqué par ces images ?
Oui, tout le monde est choqué, et contrairement à ce que vous dites, pardon, même s'ils l'ont dit mezza voce, Christophe Castaner et Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer a dit qu'il était choqué, Christophe Castaner a dit que toute la transparence serait faite sur les faits et qu'il y aurait une enquête. Alors, oui, bien sûr, on est choqué, mais on est d'autant plus choqué qu'on se demande à quoi ça sert, parce que même si les circonstances exceptionnelles invoquées par le gouvernement Castaner ainsi que Blanquer,
à quoi ça sert,
ministre de l'Éducation nationale,
il y avait deux voitures qui avaient été brûlées devant le lycée.
Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir, les circonstances exceptionnelles auxquelles faisaient allusion les deux ministres précités, n'est-ce pas, c'était, comme vous dites, du feu, des bonbonnes de gaz, des poubelles enflammées. Enfin, etc. Donc, et notamment des gens cagoulés qui n'étaient pas du lycée, qui ne semblaient pas être des lycéens, en tout cas de l'établissement. Ok, ça arrive, ce sont des choses qu'on peut expliquer. Est-ce que la révolte des Gilets jaunes va contaminer les jeunes, les lycées? Pour le moment, les universités, à part Tolblac et Sancier, ne sont pas trop touchées. Est-ce que les forces de l'ordre avaient besoin de mettre ces jeunes gens à genoux, les mains derrière la nuque, même si les faits invoqués étaient réels? Et de toute façon, l'enquête le dira, il n'y avait pas besoin de faire ça.
Vous êtes quatre choqués. On va continuer à débattre de ce sujet, mais d'abord, 20h40, toute l'info, c'est avec Thomas Benesch.
Avant même d'entrer à Matignon, où il est reçu en ce moment avec 6 autres gilets jaunes libres, Benjamin Cauchy, l'un des représentants de la frange modérée de ce mouvement, appelle les Français à ne pas manifester demain à Paris. Sur France Info, il demande que ceux qui souhaitent s'exprimer le fassent en région. Pour éviter tout débordement demain, le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement de 89 000 forces de l'ordre partout en France, dont 8 000 rien que dans la capitale. Prenez soin de Paris, a lancé ce matin la maire socialiste de la ville, Anne Hidalgo, avant cette mobilisation attendue de gilets jaunes où l'on craint également des violences. 2000 éléments de mobilier urbain ont été démontés dans les zones à risque, dont des centaines de grilles posées au pied des arbres pour éviter qu'ils ne servent à dresser des barricades. En larmes, Jonathan Daval a de nouveau avoué avoir tué son épouse Alexia en octobre 2017 en Haute-Saône. Il l'a dit alors qu'il était confronté aujourd'hui à sa belle-mère devant laquelle il s'est mis à genoux, rapporte le procureur de Besançon. C'est une fidèle de la chancelière allemande et elle va prendre sa place après 18 ans de règne. Annegret Kramp-Karrenbauer a été élue présidente de la CDU, l'Union chrétienne démocrate. Le vote a eu lieu cet après-midi lors du congrès du Parti conservateur à Hambourg.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
le monde a pu apprécier le parfait accent allemand de Thomas Benesch. On continue évidemment à parler de ces images qui montrent des dizaines de personnes genoux au sol, les mains sur la tête près d'un lycée de Mantes-la-Jolie. C'était hier. Jean-Michel Blanquer était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin. Écoutez sa réaction.
Il y a eu des images choquantes parce qu'on est dans un climat de violence exceptionnel. Maintenant, vous savez, vous parlez, vous les journalistes, très fréquemment de l'éducation à l'image. Nous en parlons aussi à l'éducation nationale. Il faut faire très attention aussi aux images découpées.
Radzab, vous voyez, je posais tout à l'heure la question de savoir si c'était les faits ou si c'était les images qui posaient problème. Que penser de la diffusion de ces images?
Je crois que premièrement l'enquête, puisque le défenseur des droits a annoncé une enquête là-dessus, et il lui appartiendra de faire état de ce qui s'est réellement passé sur les vidéos. Moi, ce que j'aimerais dire, puisqu'on parlait de les lycéens sont-ils en jaune ou pas, rappeler le contexte, c'est qu'il ne faut pas faire un amalgame entre les lycéens, les étudiants et le mouvement des Gilets jaunes. Les lycéens, ils ont une demande, ils revendiquent, en tout cas ils protestent que concernant la réforme du bac, le Parcoursup, et les étudiants se mobilisent dans les universités. En tout cas, ceux qui commencent contre l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Et si vous me le permettez, puisque le Parlement des étudiants est une association apartisane qui travaille avec l'ensemble des jeunes, quel que soit leur parti, nous, on adresse un message qui est simple. Très vite fait. Il m'appartient pas, moi, à dire aux jeunes, vous pouvez ou vous ne pouvez pas aller manifester. En revanche, la violence n'est jamais une solution, elle n'a jamais été une solution. Donc là-dessus, il y a un message qui me semble être un message de précaution et un appel à la condamnation des violences. En tout cas, c'est le premier point. Et en même temps, si vous me permettez l'expression, nous, d'ailleurs, le Parlement des étudiants a lancé un appel au Premier ministre. Nous avons écrit au gouvernement, au Premier ministre, au ministre de l'Éducation nationale, à son secrétaire d'État, à la ministre de l'Enseignement supérieur et même à la Commission nationale du débat public, puisque, comme vous le savez, pour leur dire que les jeunes doivent être entendus et doivent être associés à cette consultation. Parce que les jeunes sont des citoyens comme les autres.
Vous voulez des réformes et pas de violence. C'est un peu ça.
Pas de violence et puis surtout dire aux jeunes qu'ils peuvent être entendus comme tous les autres citoyens.
J'en reviens à ma question. Jeannick Adimi.
Non, alors là, pour le coup, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire une autonomie totale du mouvement des lycéens par rapport aux Gilets jaunes. Oui, il y a effectivement des doléances qui ne sont pas spécifiquement sur le pouvoir d'achat ou la taxe carburant, puisque, comme vous le disiez, il y a des problèmes de Parcoursup, de sélection
potentielle. Ça n'a rien à voir avec ce que réclament les Gilets jaunes.
Mais écoutez, je suis d'accord avec vous, mais quand même, le moment, il ne faut pas être totalement naïf. Il y a un moment qui fait que vous êtes trop naïf. Voilà, il faut pas, la naïveté n'est pas toujours bonne conseillère, n'est-ce pas? Mais encore une fois, enfin, il y a une corrélation, une conjonction, une simultanéité des deux mouvements qui doit quand même faire sinon réfléchir, en tout cas assurer que tout de même il y a une volonté. Encore une fois, il y a des doléances qui sont autonomes de la part des étudiants. Pourquoi maintenant il y a une sorte de mimétisme ou de mimétisme de la part de ces jeunes par rapport aux gilets jaunes que nous avons tous eu, la révolte, la contestation. Et puis, autre élément, comme en général, dans toute révolte ou expression d'un mécontentement lycéen, il y a bien sûr des mouvements et des syndicats de gauche et d'extrême gauche qui sont pas derrière, mais qui accompagnent ces mouvements-là. Voilà, il ne faut pas se cacher la face.
Etienne Girard, c'est embêtant pour le gouvernement l'entrée des lycéens dans le mouvement?
Alors, c'est extrêmement embêtant. Hier, 700 interpellations de lycéens. 700 interpellations, c'est plus que le week-end dernier. Ouais. Les interpellations de gilets jaunes dans toute la France.
C'est peut-être plus facile de les attraper, remarquez.
Peut-être. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un niveau de violence chez les lycéens qui est analogue au niveau de violence des gilets jaunes, puisque ça a suscité ces interpellations. C'est extrêmement embêtant pour le gouvernement, d'autant plus qu'il y a encore un nombre mesuré de lycées bloqués actuellement. Donc il y a un potentiel, si vous voulez, de blocage qui reste...
Bloqué, il y en a 84 bloqués, 400
qui étaient perturbés.
Oui, mais bon,
C'est embêtant aussi parce que, évidemment, le lycéen, c'est une matière fragile, inflammable. Et bien évidemment, le syndrome de Malik Houssekine.
Exactement.
Alors, c'était il y a 30 ans.
1986, on s'en souvient.
Éric Scholl s'en souvient.
Évidemment qu'on s'en souvient.
Il est bien trop jeune, bien sûr.
Et on sait à quel point ça a été aussi pour Jacques Chirac qui essayait de faire cette réforme université avec son ministre de l'époque, l'université.
De Vaquet.
Eh bien, il a dû renoncer. Ça a été un moment, le syndrome Malik Oussekine doit peser sur tous les gouvernements qui, à un moment, ont la rue, ont la jeunesse dans la rue. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le niveau de violence qu'il y a et le niveau de violence potentiel, c'est une peur qui doit forcément inquiéter le ministre de l'Intérieur et plus que ça, enfin, l'ensemble du gouvernement.
Sans aller, malheureusement, jusqu'au syndrome Malik Oussekine et des violences qui déboucheraient sur des morts, le fait que la jeunesse aille dans les rues, ça inquiète tout le pouvoir. Sans aller, encore une fois, jusqu'à 86, mais souvenez-vous de M. de Villepin et puis CPE, du CPE. Quand il y a les jeunes qui vont dans les rues, ça inquiète aussi, bien évidemment, les parents. Et il y a de toute façon une sorte de sympathie et de connivence, mais bien normale, entre les parents et les jeunes. Donc on sait bien que les lycéens, ça dépasse bien évidemment le nombre de lycées bloqués ou le nombre de lycéens qui manifestent. Ça touche toute une partie de l'opinion publique et les gouvernements en général reculent sur ces réformes-là.
Et là, la différence qui est intéressante dans ce mouvement, c'est que je suis assez d'accord avec ce que dit Yannick Halimi. Les revendications catégorielles sont au second plan. Il y en a effectivement, mais il n'y a pas de projet de loi, de choses à dealer de façon très claire pour les lycéens avec le gouvernement. C'est un mouvement qui est presque, c'est presque des gilets jaunes, si vous voulez.
Non mais Marianne, ils sont formidables pour ça.
Qui sont surtout, finalement, non mais le mot d'ordre principal, c'est l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. On entend Macron démission et toujours ces mêmes phrases. Les Gaulois réfractaires te saluent, on vient de chercher Manu, on traverse la rue, etc., etc. C'est un mouvement de ressentiment, de rejet face à la personne du président de la République, au moins autant qu'un mouvement de revendication catégorielle. Et c'est ça qui est inquiétant, parce que c'est très dur à saisir pour le gouvernement.
Mais Jadza, soyons cyniques jusqu'au bout, on sait comment ça se termine, les mouvements lycéens. Ça se termine avec les vacances scolaires. C'est dans 15 jours, hein, après tout.
Non, mais je crois que là-dessus, c'est un effet de contexte aussi. Il faudra voir ce que ça donnera. Mais je crois qu'il faut bien différencier les deux. Effectivement, il y a un effet d'aubaine, mais je maintiens et je signe, si je peux me permettre cette expression, sur le fait que les revendications sont différentes. Il y a un contexte, mais il ne faut pas assimiler les gilets jaunes et ces gilets jaunes, en tout cas ces étudiants et ces lycéens qui manifestent. Et puis surtout, appeler au calme, parce que les lycéens ont une capacité de mobilisation importante. Et leur redire, par exemple, quand certains appellent à aller se mobiliser demain à Paris, leur redire que la situation est grave, qu'il y a des violences et qu'il faut
les protéger
eux-mêmes aussi.
Parce que quand on est lycéen, on aime le bololo, pour reprendre l'expression du Premier
ministre. Je vous laisse le...
On est lycéen, ça ne veut pas dire qu'on n'est que des jeunes ou des jeunes adultes. Encore une fois, on est une force politisée sur laquelle prospèrent, mais encore une fois démocratiquement, des syndicats et des partis politiques.
Oui, bien sûr. Et donc, en ce moment, il y a une volonté qu'on voit bien depuis quelques jours et que l'on peut mieux comprendre lorsqu'on voit les sondages qui dégringolent, un exécutif qui est quand même affaibli. Alors, il y a une volonté de tout pousser et donc de fédérer, d'agréger les mécontentements. Pour le moment, il est encore très difficile de savoir s'il y a réellement un mouvement étudiant ou un mouvement lycéen.
Un mouvement lycéen, il est là, un mouvement étudiant...
L'étudiant, il est fractureux et syndicalement.
On en parlera peut-être plus tard, mais pas cette émission désinformée, parce que le mouvement d'étudiants, pour le moment, il n'est pas encore là. Puis il est 20h50, on va laisser passer l'info, puisque Thomas Benesch vient de nous rejoindre dans ce studio.
Ce n'est pas la dernière chance, mais presque, a déclaré ce soir au micro de France Info Jacqueline Moureau, l'une des 7 gilets jaunes libres reçus à Matignon. On est à la veille de quelque chose d'explosif et il est un peu tard pour négocier des choses concrètes, a regretté cette militante de la frange modérée du mouvement. Demain, les gilets jaunes appellent de nouveau à manifester pour éviter les débordements de samedi dernier. 89 000 forces de l'ordre seront mobilisées à travers tout le territoire. À la veille de cette mobilisation, Marine Le Pen exprime dans une lettre ouverte son attachement à la 5e République. Les imprécations en faveur de son renversement sont inutiles, ambiguës et dangereuses, juge la présidente du Rassemblement National. L'enterrement de la 5e République est l'une des revendications portées par certains gilets jaunes. C'est une information France Info. La société Altifort a bouclé son plan de financement pour reprendre l'aciérie nordiste Ascoval. L'État y participera à hauteur de 25 millions d'euros. Le tribunal de Strasbourg doit se pencher sur ce dossier et décider de la viabilité de cette offre dès mercredi prochain. L'aciérie de Saint-Solve, Ascoval, dans le Nord, emploie 281 salariés. Le 32e Téléthon s'est ouvert ce soir et pour tout le week-end. Le parrain de cette édition 2018 s'appelle Pascal Obispo. Pour aider à vaincre les maladies rares, vous pouvez faire vos promesses de dons à ce numéro, le 3637.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Dernière partie des informés, on parle des gilets jaunes ce soir encore, mais il y a des conséquences également de ce mouvement. Alors pour le commerce, pour le tourisme, on l'a déjà pas mal évoqué hein, sur France Info. Et puis il y a d'autres conséquences auxquelles on ne pensait pas forcément, mais qui arrivent quand même très rapidement. Je prends juste un exemple. Le Téléthon qui a débuté tout à l'heure à 18h45, cela faisait des semaines que France Télévisions construisait un studio bulle à grand prix sur la place de la Concorde, obligé de se rapatrier en urgence dans les sous-sols de France Télévisions. Le plus grave, c'est que les dons pourraient fondre comme neige au soleil, puisqu'il y a énormément d'événements qui devaient financer le Téléthon et qui n'auront pas lieu. C'est l'une des conséquences de ce mouvement. Etienne Gérard, vous allez pleurer sur le Téléthon ?
Bah oui, c'est évidemment triste pour le Téléthon, c'est triste pour tous ces commerçants qui ne feront aucun chiffre d'affaires demain. Évidemment, ça va coûter des points de croissance française à la fin. On dit que, alors je regardais avant de venir à l'émission, un jour férié, c'est 200 millions d'euros de manque à gagner. Les jours, tous ces samedis.
Ah, les samedis du mois de décembre, vous vous rendez compte?
Eh bah oui. Et tous ces samedis, ce sera l'équivalent de 6 ou 7 jours fériés. Et donc, on peut être à 2, 3 milliards de manque à gagner pour l'État français. Et 3 milliards, c'était le coût de la taxe carburant, de façon assez ironique. Donc, c'est terrible. On est dans un cercle vicieux qu'on aurait pu éviter en négociant il y a bien longtemps et en abandonnant cette taxe il y a bien longtemps.
Yannick Alibi?
Oui, il y a effectivement l'aspect économique, mais il y a aussi l'aspect fiscal qui entraîne immédiatement un impact politique, c'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires et les profits qu'on pouvait espérer dans les magasins, notamment, enfin, et dans l'industrie, bien sûr, ça fait des rentrées fiscales
en moins.
Ça fait de la TVA en moins. La hausse de la fiscalité sur le carburant, ça fait plusieurs milliards d'euros cette année, mais si on poussait la trajectoire jusqu'en 2022, je crois que c'est 10 à 14 milliards d'euros. Les sommes d'accompagnement supplémentaires, peut-être les fallait-il, hein, je ne juge pas sur le fond, mais ça fait des dépenses supplémentaires fiscales qu'il va falloir rémunérer, qu'il va falloir financer.
Donc ça coûte plus cher et on ramasse moins d'euros.
Et ça pose le problème suivant, c'est que pour financer tout ce qui devait être les politiques sociales pour les plus démunis, le plan social, le plan santé, etc., pour le gouvernement, ça va être extrêmement compliqué. Donc l'État va devoir faire des économies supplémentaires. On sait que ça risque de provoquer une certaine irritation, notamment de la part des fonctionnaires, où il va falloir faire des économies sur le rythme de l'État. Et puis, troisième élément, c'est que si d'une façon ou d'une autre, la France ne respecte plus d'ici un an ou d'ici deux ans, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, les critères de Maastricht, en tout cas toutes les directives financières que nous impose l'Europe.
Et les fameux 3%.
On n'en est pas encore là, hein, mais c'est encore une fois toute l'ambition européenne d'Emmanuel Macron qui est déjà beaucoup fragilisée, qui risque carrément de se déliter. Donc on voit que l'impact économique, fiscal et politique de toute cette crise-là est extrêmement important, voire tragique.
Il y a évidemment les conséquences économiques, puis il y a les conséquences sur le moral des Français. Il est au plus bas, je regardais les derniers chiffres, il a atteint son plus bas niveau depuis février 2015. Et le moral, ça c'est peut-être le plus important, non ?
Oui, je crois que c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, puisqu'on est à la fin de ce débat, de ce phénomène de gilets jaunes, c'est qu'il y a une misère sociale, il y a un désespoir, les gens n'en peuvent plus. Et justement, ces gilets jaunes-là qui sont pacifistes et qui depuis trois semaines se rassemblent autour des ronds-points pour dire voilà, je te vois, nous voyons, nous sommes, j'allais dire, ensemble jusqu'au cou, mais on se voit, on se soutient. Moi je suis assez triste parce que c'est vrai que cette situation-là, moi j'ai 24 ans, j'ai jamais vu la France dans cet état-là. C'est triste, mais c'est surtout une misère sociale. Il y a une violence sociale aussi qui me marque, qui me frappe. Et on est au moment des fêtes de Noël, qui sont normalement un moment où les gens se rassemblent, les gens se mettent en famille, les gens partagent, les gens se serrent les coudes. Et c'est vrai qu'il y a une misère sociale, le moral est au plus bas. Et j'ai espoir que le gouvernement sera à la hauteur. Et j'allais dire même plus que le gouvernement, le président de la République, on a besoin qu'il parle et qu'il s'exprime face aux Français pour essayer de leur redonner quelques éléments d'espoir. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
Éric Jolle, les Français sont déprimés en cette fin d'année, bien plus que nos voisins européens.
Oui, oui, effectivement, parce que il y a cette idée quand même de cohésion sociale qui est mise à mal. On n'a pas une cohésion politique et cohésion sociale. On n'a quand même plus l'impression qu'on a un pays, qui est en ce moment qui est fracturé. Et on a beaucoup de mal à l'analyser. On a entendu toutes les tests sociologiques depuis quelques jours sur ce sujet. Mais on voit bien qu'en tout cas, il y a un manque d'unité qui est criant. On avait cru il y a un an et demi au moment de l'élection que de présidentielle, que on pouvait peut-être repartir, qu'il y avait un élan.
Un élan
d'ailleurs français et qui était, je dirais, presque assez exceptionnel ailleurs en Europe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la presse européenne le montre bien ça. Elle nous dit, regardez, finalement, on a un exécutif qui est affaibli et rejoint, dans ce sens-là, la plupart des autres pays d'Europe. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, c'est encore plus déprimant, vous regardez les grandes têtes européennes, il n'y en a pas. Regardez l'Italie, on est là avec un double populisme en Italie. Regardez la Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a le Brexit, on ne sait même pas si Theresa May sera encore Première ministre dans une semaine. L'Espagne vit avec un gouvernement qui est minoritaire. Même chose au Portugal, même chose en Irlande. Non, on
se disait que la France, c'était finalement le point fixe et fort. Et ben, finalement,
on manque de ce point fixe et fort.
C'est loupé. Les meilleures choses ont une fin, vous le savez, et les informés aussi. On doit terminer cette émission rapidement. La une de vos journaux, Étienne Girard.
Oui, Marianne, nous sommes le peuple. 20 pages de paroles de Gilets jaunes. On leur donne la parole, à eux et seulement eux.
Yannick Halimi, vous savez ce qui fera la une demain du Parisien ? J'ai une petite idée.
Dites-le.
Les Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes, mais que veulent-ils vraiment ?
Et évidemment, Éric Scholl,
question.
Ce numéro spécial.
Une colère française, analysée évidemment par toute la presse, et non seulement européenne, mais on va du Liban jusqu'à la presse russe, parce qu'on parle de Gilets jaunes absolument partout dans le monde.
Eh bien, on va lire tout ça ce week-end. Bonne soirée à tous. Que le week-end vous porte conseil. L'info continue sur France Info.